à tous et à toutes et bienvenue au podcast de la rédaction de Game Info. Cette semaine, je serai en compagnie de Morhen.
Salut Thierry, salut tout le monde.
Une annonce en préambule de ce podcast. Nous cherchons des nouvelles personnes pour le podcast. Il faut savoir que l'intégration de B2G ne s'est pas passée comme prévu, c'est-à-dire que B2G n'a pas le temps de participer au podcast, ce qui est tout à fait compréhensible, hein, qu'on a une vie de famille, tout ça. Vous aurez remarqué que ces derniers temps, on a quelques petits soucis pour tourner à 3 personnes, hein, voilà.
Ouais, ce qui est un peu le minimum.
Oui, enfin, disons que là, vous voyez, on est 2. En fait, c'est parce que ATH a eu un souci de dernière minute et qu'il n'est pas là. Mais en général, on essaye de faire des podcasts à 3 personnes. Donc voilà, on cherche quelqu'un pour participer au podcast. On enregistre les vendredis soirs, le samedi et le dimanche. Donc si vous avez des disponibilités,
c'est un des 3, hein, n'ayez pas peur.
Ouais, on enregistre les 3 jours, on fait un marathon et tout. Comment se passe l'enregistrement de podcast? Alors, il faut savoir que chaque semaine, j'envoie un sondage à mes comparses, sondage qui est clos le jeudi soir où je donne tout simplement la date d'enregistrement suite aux réponses de mes différents camarades. À partir de là, moi, en général, ce que j'essaye de faire, c'est préparer le sommaire à l'avance. En général, je dis bien, parce que c'est pas du tout toujours le cas, en fait. Parce que bon, quand tu travailles tout ça, évidemment, c'est compliqué. Donc voilà, si vous avez des disponibilités le week-end...
Que vous avez des choses à dire sur voilà, le jeu vidéo aussi.
Aussi, parce que je rappelle, hein, c'est un podcast de passionnés. Hein, ouais. Je veux dire, quand tu fais un podcast et que t'as pas forcément des réactions chaque semaine, voilà, enfin, c'est que t'as vraiment envie d'être là pour discuter du jeu vidéo, que t'as des choses à dire sur le jeu vidéo. Il faut avoir l'envie, j'ai envie de dire, tout simplement. Donc voilà, si vous êtes intéressé.
Et que la ligne édito des podcasts vous parle aussi, hein.
Oui, tout simplement.
Mais bon, si vous l'écoutez, logiquement, ça devrait aller.
Ouais, voilà. Je veux dire, vous savez qu'on parle pas mal de jeux indépendants, tout ça. que même parfois je fais des monologues sur certains jeux, parce que j'ai exigé qu'on en parle durant le podcast. Donc voilà, si vous êtes intéressé, tout simplement, merci d'envoyer un mail à l'adresse tyrannpremier@msl.com, tyrann1r@msn.com. Vous pouvez aussi commenter l'émission de ce podcast. Je lis tout le temps les commentaires, je reçois des alertes mail à chaque fois. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et aussi, si vous avez un micro pas trop dégueulasse quand même, je sais que ça c'est un critère super limitant, mais enfin si vous voulez vraiment d'avoir le minimum quoi, que ce soit audible, clair, que ce soit pas désagréable à l'écoute aussi. Par exemple, vous voyez, vous prenez le micro de Ben, c'est pas un micro à 300€ qu'il a, hein, c'est un micro à 30€. Et il fait super bien le taf, quoi, pour sa voix, lui, en tout cas.
Ouais. Enfin, quoi qu'il arrive, proposez-vous. Logiquement, on devrait caler un petit appel entre nous et puis on essaiera de voir si ça colle déjà, d'un point de vue purement humain, et puis technique aussi. Voilà, c'est comme ça que ça se passe.
Ok. Allez, au sommaire de l'actualité cette semaine, nous vous parlerons de l'échec du Kickstarter de John Romero. On enchaînera ensuite sur la VF de Deus Ex. On parlera du prochain Space Hulk, parce que c'est bien Space Hulk. Nous évoquerons également Mirror's Edge Catalyst. On parlera du Crash and Kit de Fallout 4. Et enfin, nous évoquerons le fist-fucking de Nintendo, n'est-ce pas? celui qu'il a fait au possesseur de Wii U. Voilà, voilà, c'était charmant cette semaine. On va commencer donc, mon cher Morhen, avec le Kickstarter d'un certain John Romero. Alors, John Romero, pour ceux qui ne savent pas, c'est, entre autres, le papa de Doom.
Eh oui.
Fondateur d'ID Software, tout ça, notamment avec un certain Adrian Carmack et John Carmack. Alors, sur les 3, il reste Adrian Carmack. John Carmack, vous le savez, il fait des trucs pour l'Oculus, hein. Voilà.
Oui.
John Romero, il est aussi connu, outre Doom, pour une sombre bouse qui s'appelait Daikatana. Une bouse pour laquelle les gens ne lui ont jamais pardonné, je crois. Enfin, c'est un truc, genre, les gens en parlent encore aujourd'hui. Bon, il faut dire que Daikatana, c'était l'un des premiers jeux où, enfin, qui basait sa campagne de promotion sur la personnalité d'un des créateurs du studio, on va dire. Et il se trouve que John Romero a une personnalité déjà un peu spéciale, que la communication était un peu basse du front. C'était genre « John Romero's gonna make you its bitch », tu vois. Voilà, voilà.
Subtilité quand tu nous tiens.
Voilà, tout simplement. Et puis bon, je veux dire, quand tu annonces un jeu comme ça en grande pompe, qui met un certain temps à sortir et qu'au final c'est une catastrophe, voilà, les gens sont un peu rancuniers, dirons-nous. Alors, il a lancé un nouveau Kickstarter, ce monsieur, un Kickstarter qui s'est planté, hein, spoiler. ce Kickstarter s'est planté, pourquoi? Parce qu'il demandait 700 000 balles avec que dalle en gameplay, tout simplement.
Ouais. Rien du tout.
On en a discuté avant le podcast, Mandrain et moi, on est d'accord sur le fait que ce genre de Kickstarter, aujourd'hui, c'est plus possible, et visiblement, pas mal de gens aussi, hein, ouais. Tout simplement.
La communauté se réveille, c'est bien.
Ouais, bon, à chaque fois, on se demande, parce que quand même, il y a Shenmue qui remonte à pas si longtemps que ça. Bon, d'un côté, Shenmue, ça date de quasiment un an, ce qui est une éternité sur Internet.
Ouais.
Voilà. On espère que c'est un signe que les gens sont passés à autre chose sur Kickstarter, en tout cas, qu'ils sont exigeants vis-à-vis du système, tout simplement. Et que, voilà, ce genre de choses, ce n'est plus vraiment possible. Mordrain, quelque chose à ajouter, ou est-ce qu'on passe à la suite? Je pense que le projet en lui-même ne vaut pas le coup qu'on s'attarde plus.
Je pense que le projet en l'état actuel, ça sert à rien qu'on s'attarde dessus, à savoir juste que du coup le Kickstarter est annulé, mais il va redémarrer d'ici un ou deux mois quand la démo sera préparée et qu'il y aura une véritable campagne autour du jeu. Donc on en reparlera à ce moment-là, voir si c'est véritablement les gens qui sont contre John Romero ou si le jeu, tel qu'on va nous le montrer dans deux mois, sera un peu plus intéressant ou pas.
Ou est-ce que Kickstarter est passé de mode, tout simplement? Parce que
voilà.
On va pas se le cacher, hein, Kickstarter ces derniers temps, c'est pas la joie, hein, vous avez remarqué que nous, on n'en parlait plus trop, voilà. C'est pas forcément qu'on boycotte la plateforme, c'est qu'on est déjà beaucoup plus méfiant, premièrement. Mmh. Et deuxièmement, des projets intéressants, il n'y en a plus tellement. Et d'une manière générale, on a un peu l'impression que le financement participatif sorti de Star Citizen, qui est, the big one, dirons-nous.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu mouru, voilà. Bon, allez, on passe à la suite, Mandrain.
Yes.
Et on va parler du prochain Deus Ex, plus précisément de sa version française, parce que bon, il y a un énième trailer qui est sorti sur Deus Ex.
Gros trailer, d'ailleurs.
Ouais, un trailer assez long, d'ailleurs, 6 minutes.
C'est un peu Deus Ex Mankind Divided pour les nuls.
Mm-hmm, c'est ça. D'ailleurs, je me faisais la réflexion récemment, parce que j'ai vu les vidéos sur ta chaîne, tu sais, où tu traites du cinéma, tout ça. D'ailleurs, allez voir la chaîne de Mandrain, c'est très bien.
C'est bien aimable.
J'aime beaucoup tes vidéos sur le cinéma, en tout cas. Je t'avoue que les vidéos sur Arc, c'est pas forcément mon rayon, mais le ciné,
c'est ce que je peux comprendre.
Et donc, du coup, tu sais, souvent dans tes critiques ciné, tu dis que les trailers, on montre trop de choses, c'est trop long, enfin tu vois, on spoil les trucs. Je me faisais récemment la réflexion parce que j'ai après coup regardé les trailers de Dark Souls 3, je me dis putain mais ils ont spoilé vachement de trucs en fait.
Ouais.
Et encore une fois là, bon enfin, tu vois quand je vois le trailer de Deus Ex, je me dis est-ce qu'il y a pas plein de trucs qu'on a spoilé dedans en fait et que ça va pas gâcher l'expérience, tu vois.
Mais en fait, c'est qu'une fois que t'as vu le produit fini que si jamais t'as la curiosité de revenir sur le matériel promotionnel que tu te rends compte à quel point t'as vu tant de choses en fait. Surtout, ça marche énormément sur les films, mais sur les jeux vidéo, bon, l'avantage des jeux vidéo, c'est que l'expérience est plus longue, donc ça se voit un petit peu moins, entre guillemets.
Et puis surtout, c'est moins basé sur la narration en général,
voilà.
Donc du coup, le fait qu'on t'ait spoilé un truc, c'est moins impactant.
Ouais.
Mais on peut spoiler du gameplay aussi, c'est ça le problème.
Tout à fait. Mais dans Mankind Divided, par exemple, tu as un choix, tu sais, action ou... infiltration, dans ce trailer en particulier, et il te montre le final de ses choix, ce que ça implique en termes d'intrigue, et du coup, ça, si c'est pas un spoil, je sais pas ce que c'est. Hein.
Tout simplement. Alors, par contre, c'est pas pour ça qu'on voulait parler des trailers aujourd'hui, on voulait
surtout
parler de la VF de Mankind Divided.
Ouais.
Alors, je voulais pas influencer ton opinion avant le podcast, d'où le fait que, disons, notre Google Doc, la question qui est posée est assez neutre, à savoir, la VF du prochain Deus Ex, vous en pensez quoi? Qu'en penses-tu, mon cher Mandrain?
Quand j'ai écouté le trailer VF, j'ai commencé par le trailer VF, par curiosité, je me suis dit, ça va, c'est pas choquant. Je trouve par contre la voix d'Adam Jensen peut-être un peu forcé. Du coup, je me suis dit, c'est peut-être une indication de jeu qui est présente dans la version anglaise, en fait. Et en réalité, c'est pas trop le cas. Quand j'ai écouté le début du trailer de la version anglaise, je me suis dit, c'est bizarre. D'un côté, en VF, j'ai une voix très très grave, presque trop grave, d'ailleurs.
Ça fait vraiment forcé, quoi. C'est...
Ouais.
Ouais, je suis un vétéran, tu vois.
Ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, la version anglaise, qui est plus neutre, tout en ayant une certaine gravité, quoi. Et du coup, j'ai trouvé ça étonnant.
Moi, enfin, je suis pas client du tout, hein, je le dis tout de suite. Alors après, il faut savoir une chose, hein, c'est que je suis pas forcément le plus grand fan de la voix anglaise de Adam Jensen, parce que je trouve qu'il est un peu mono-expressif.
Ouais.
Ça fait le mec, tu sais, trop dark.
Oui.
Ça lui donne un cachet, mais je trouve qu'en termes de palette d'émotions, l'acteur qu'il y a derrière, en fait, il est assez monotone, quoi. Il sait faire ça, quoi. C'est un peu comme Elrond, tu sais, dans le film Seigneur des Anneaux. C'est le mec, il sait faire un truc et il le fait bien, mais voilà. il sait pas faire autre chose, en fait. C'est ça, le problème.
Bah, c'est pas pour rien qu'il a fait l'agent Smith derrière.
Ouais, ouais, non, mais c'est exactement ça, quoi. Et du coup, c'est le souci que j'ai avec la version anglaise, mais au moins, tu vois, dans ce qu'il fait, je trouve qu'il le fait bien. Alors que la VF, ça fait partie de ces doublages où je te demande si le mec avait derrière les instructions qu'il fallait pour pouvoir correctement jouer son personnage, en fait.
Ça, c'est toujours la grande question des doublages dans le jeu vidéo.
Alors après, je tiens quand même à saluer le fait qu'il y ait une version française doublée.
Oui.
Parce que malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément standard, et ça devrait l'être.
C'est vrai.
Alors, je suis pas un partisan de la VF, parce que je comprends très bien l'anglais, et que ça me permet de pratiquer, et puis que, en plus, en général, c'est quand même mieux foutu que les doublages français, faut dire ce qui est. Je dis bien en général, hein, il y a des exceptions, hein, moi je sais que par exemple, je préfère largement la VF de Soul Reaver. Mais bon, ça commence à dater. c'est dommage parce que tu sais, on a des doubleurs français,
De qualité,
genre Benoît Hellman qui fait la voix de Ken dans Legacy of Ken, tu vois, enfin, qui a une voix, enfin, dès qu'il parle, tu sais, tu la reconnais tout de suite, quoi. Et on a des doubleurs français qui font du super taf, mais déjà on les retrouve pas forcément sur les grosses productions, et en plus, à chaque fois, est-ce qu'on leur donne vraiment les moyens pour faire du taf correct? J'ai un gros doute.
Ouais, mais enfin, moi je suis sur cette promotion-là, je trouve que c'est trop, en fait. Je suis en train de la re-regarder encore et je me dis, putain, mais il y a tellement de trucs. Et puis, il y a aussi le fait que c'est Deus Ex Mankind Divided. On te dit, ouais, bah en fait, on a trouvé un moyen de débloquer les pouvoirs d'Adam Jensen et au final, il est encore plus puissant qu'avant. Et je fais, ah, ok, d'accord. Et donc, derrière, il te montre tous les gadgets et tu fais, mais enfin, ouais, mais qu'est-ce que je vais découvrir ensuite in-game, quoi? Et c'est... Ouais, je suis assez gêné par cette communication.
Je vais être honnête, j'ai pas regardé tout le trailer, parce que dès que j'ai vu des phases de gameplay, j'ai dit, ah, ça pue la merde. Parce que pour le coup, c'est un jeu que j'attends cette année, tu vois, j'ai pas envie trop de me spoiler, en fait.
Mais c'est ce que j'ai fait pour Mirror's Edge, figure-toi, dont on va parler tout à l'heure. J'ai regardé un petit peu ce dont tu parlais, et puis après j'ai arrêté parce que je veux pas me spoiler ce jeu.
Et attends, 20 minutes de gameplay sur Mirror's Edge, là bon, c'est plus court, c'est 6 minutes, mais c'est un trailer, tu vois, un trailer de 6 minutes quand même, quoi.
Mais les trailers, ils ont la grande différence de 20 minutes de gameplay, c'est que le gameplay est ininterrompu, comme son nom l'indique. Le trailer, dans son essence, il est monté, donc il va te montrer beaucoup plus de choses, en fait.
Bah, il faut donner envie, mais si tu veux, il y a une différence entre donner envie et spoiler plein de trucs, quoi. Enfin, je veux dire, est-ce que les phases de gameplay, t'as besoin de montrer 36 gadgets, quoi?
C'est clair. C'est un peu mon chemin de croix en ce moment.
Au rayon trailer, on a vu... tourner le prochain Space Hulk Deathwing.
Oui.
Alors, Space Hulk, je rappelle, c'est une franchise de la licence Warhammer, n'est-ce pas?
40 000.
Warhammer 40 000, oui, c'est vrai que c'est important de le préciser. C'est, en gros, une licence où, les Space Marines se rendent sur ce qu'on appelle des Space Hulk.
Qui sont des grands containers.
Des grands vaisseaux qui sont des amas de vaisseaux, en fait.
C'est ça.
T'as plusieurs types de vaisseaux qui sont agglomérés ensemble et ça fait un super méga gros vaisseau de la mort perdue, quoi. Qui erre un peu dans l'espace et on va dire que, en général, les Space Marines cherchent à prendre le contrôle de ces vaisseaux. Parce que, il y a des trucs intéressants à récupérer dessus. Enfin,
logique.
Ne serait-ce qu'en prendre le contrôle, tu vois, enfin, ça peut être vachement bien quand même, hein. Quand t'as un espèce de vaisseau titan, là, qui débarque comme ça. Ça peut être très très utile. Le problème des Space Hulk, c'est qu'en général, ils sont envahis de plein de saloperies, de tyrannies, d'orques, ce genre de choses. Enfin, tu sais, les anciens occupants des vaisseaux, quoi, en fait, tout simplement. Surtout, en particulier, ce qu'on appelle les Genestealers, qui sont une espèce particulière de tyrannides, qui ont tendance à, comme leur nom l'indique, à voler les gènes des autres races, et à faire des mix comme ça, à produire des hybrides et tout... C'est assez intéressant, hein, comme adversaire quand tu veux créer un jeu.
Ouais. Et donc, à savoir que c'est un jeu de plateau. Un jeu de plateau qui a un feeling assez différent parce que Warhammer 40,000, c'est un jeu de figurines, un jeu d'escarmouche à figurines. Space Hulk, c'est un jeu de plateau avec des figurines, certes, mais qui a un feeling tout à fait différent parce que c'est un feeling presque dernier carré, en fait. Vous avez une escouade de 4 ou 5 Space Marines, je crois, issus de la Deathwing. Et dans chaque partie... vous avez donc un amas de tyrannides qui vous foncent dessus et l'objectif est forcément de mener à bien la mission tout en survivant. Donc ça, c'est vraiment un jeu qui a une tension assez palpable, en fait.
Voilà. Alors après, donc on a vu des images de gameplay du prochain Space Hulk fait par Stromon Studio.
Et Cyanide.
Oui, c'est édité par Cyanide. Enfin, quoi que...
C'est édité par Focus Interactive et t'as Stromon et Cyanide qui bossent sur le jeu.
D'accord, mais c'est Stromon qui en lead, en tout cas, sur le projet.
Ouais.
Stromon, je le rappelle, c'est des petits Français qui ont bossé sur un jeu dont j'avais parlé ici, à savoir High Divine Cybermonty. J'avais très bien dit à l'époque que c'était un jeu qui me rappelait étrangement Warhammer dans son design, hein, Warhammer 44, tout ça. Ah bah ouais, ils ont bien choisi l'équipe pour bosser sur un projet Warhammer, j'ai envie de dire. Le jeu en lui-même, je sais pas pour toi, ça m'a étrangement rappelé un jeu auquel on a joué ensemble en coop et auquel il faudrait qu'on rejoue ensemble en coop.
C'est vrai.
Clin d'œil, clin d'œil. À savoir Warhammer Vermintide, qui est tout simplement, on va dire, un clone de Left 4 Dead.
Oui, dans l'univers fantastique de Warhammer, cette fois.
Voilà. À ceci près que, outre la différence de setting, parce que Vermintide, c'est de la fantasy, là, c'est Warhammer 40K, donc plutôt futuriste, tout ça. Je sais pas si t'as vu la map, à un moment, dans la vidéo. Ça a l'air immense.
Ouais.
Et en fait, quand je vois la map qui a l'air vachement labyrinthique, alors je sais pas si c'est... on peut vraiment aller partout sur ce qu'il y a sur cette map. C'est juste un truc, on met de super map, mais en fait, c'est en ligne droite. Ouais. Mais par contre, si on peut vraiment aller partout, ça veut dire qu'en gros, ils vont rajouter à la formule Left 4 Dead un aspect planification de route qui m'a l'air vachement intéressant. Surtout qu'en plus, je rappelle, c'est Space Hulk. Et dans Space Hulk, t'as certains aspects, notamment genre... on passe une porte, tu vois, on la verrouille pour que les tyrannides ils puissent pas nous suivre ou en tout cas les ralentir. Et du coup, si ils pouvaient ajouter des nouveautés à la formule Left 4 Dead, ça serait vachement cool, quoi.
C'est vrai que les zones sont très grandes, mais à savoir qu'il n'y a pas qu'une seule map. Hein. Vous aurez l'occasion, dans plusieurs missions, en fait, chaque mission est liée à un Space Hulk différent. Donc c'est plutôt cool. Et puis, c'est vrai que quand tu regardes la map, mon Dieu, ce que c'est grand. Mais ouais, effectivement, ça donne envie. Et puis... pour une fois, en fait, tu joues... dans Space Hulk, dans le jeu de plateau, vous avez des personnages qui sont des Terminator Space Marine. C'est pas du tout la même chose qu'un Space Marine, puisque un Space Marine, c'est beaucoup plus rapide, un Terminator, c'est beaucoup plus lourdeau, en fait. Et ça se sent quand tu regardes les images, en fait. Et je pense que ça plaira pas à tout le monde, mais pour le coup, ça reste... comment dire, fidèle. dans le lore en fait de Space Hulk, et ça c'est plutôt cool. Et puis il y a, je trouve aussi, une direction artistique qui est assez propre à Warhammer 40,000 et qui donne quelque chose d'assez cool,
du gothique en voiture, voilà,
c'est ça. Plus forcément le choix des armes différentes que tu peux sélectionner en début de partie, ça c'est plutôt cool. Et un truc que je trouve très très sympa, c'est que à force de te faire taper au même endroit par les tyrannides, qui sont donc les ennemis de ce jeu, donc typiquement tu te fais taper tout le temps sur la main droite, bah la main droite au bout d'un moment elle va plus pouvoir utiliser son arme, en fait, qui lui est liée,
parce que tu portes une armure qui est mécanique et les mécanismes, ça sent dommage.
C'est ça, et ça je trouve ça hyper cool, et ça peut donner quelque chose de, du coup, d'assez complexe mais très intéressant.
Et ce qui est aussi intéressant, c'est que du coup t'auras plusieurs classes à jouer, hein. C'est quand même Warhammer 40K, tu vois, enfin vraiment, moi, je suis... enfin, je sais pas pour toi, mais la hype, elle est là, quoi.
Je suis assez hypé sur le jeu, à savoir qu'on n'a pas du tout de date de sortie. C'est très rare d'avoir un jeu qui est adapté d'une licence Games Workshop qui donne envie directement tout de suite, quoi.
Games Workshop, c'est un peu la fête du slip, hein. Ils donnent leur licence à tout le monde, hein.
En ce moment, c'est assez monstrueux, hein, ce qu'ils font Games Workshop. T'as des jeux en veux-tu, en voilà, surtout sur mobile. Mais tu sens que là, pour le coup, ils ont les moyens de proposer quelque chose d'assez intéressant. À savoir que le jeu sort sur PC, PS4 et Xbox One.
Voilà. Bon, Mandrain, on est foutu, hein.
Ouais. Mais j'ai hâte. Mais ça fait, c'est rare hein, que je sois hypé sur un jeu.
Oui, surtout un jeu en coop comme ça. Bah, quoique je crois que toi t'aimes beaucoup le coop aussi. Hein.
Moi j'aime beaucoup le coop et c'est
le
pour ça que ça me parle.
Le problème du coop c'est qu'après il faut avoir des potes pour y jouer. Mais
c'est ça.
Là je, sur ce projet-là, je t'accompagne, y a pas de souci.
Ouais.
On va en faire des parties sur ce jeu. Oh, putain, ça. À moi là, je suis chaud bouillant. Warhammer déjà à la base, j'adore. En plus, ce qui est génial avec les spéciales, si vous voulez, c'est que comme c'est des amas de vaisseaux, en termes de décor, tu peux faire plein de trucs en fait.
Ouais.
Parce que un coup tu peux tomber sur un vaisseau impérial, puis là tu passes à une autre zone, en fait c'est un vaisseau orc, enfin tu vois, c'est ça peut être complètement génial comme truc.
Oui. Mais c'est marrant parce que quand dès qu'on a commencé à jouer à Vermintide, c'est la première chose qu'on s'est dit, putain mais t'imagines ça dans l'univers de Warhammer 40 000.
Voilà.
Et ben voilà.
Bon, allez, on va passer à la suite, mon cher Mandren, et la suite c'est le prochain Mirror's Edge.
Oui.
Qui a eu, comme on le disait tout à l'heure, 20 minutes de gameplay. 20 minutes de gameplay, c'est beaucoup trop. Bon,
beaucoup,
en l'occurrence, c'est le début du jeu, donc bon, ça peut encore aller. Surtout que bon, j'ai envie de dire l'histoire dans Mirror's Edge, on s'en fout un peu, n'est-ce pas? Enfin, on s'en fout
ou
un
pas.
Peu. Nous, on s'en fout un peu, mais apparemment, l'équipe de dev derrière, ils essaient de faire quelque chose. Hein. Je sais pas quoi, mais...
Ouais, mais en fait, on s'en est rendu compte dans une vidéo de gameplay qui est sortie donc par un YouTuber... qui a donc joué 20 minutes à ce jeu-là, et en réalité, on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de minutes qui sont dédiées à la mise en place de l'intrigue au début du jeu, ce qui était le cas d'ailleurs dans Mirror's Edge 1.
Ça démarrait beaucoup plus vite, j'ai l'impression.
Oui, mais là, on revient un peu aux origines, si tu veux, de Faith, donc avec un espèce de petit flashback sur son enfance et tout et tout. Et puis ensuite, on la retrouve dans une cellule... disciplinaire, on va dire, où elle se fait fouiller, etc., etc. Et donc là, c'est vrai qu'on retrouve quelque chose qu'on avait presque oublié dans Mirror's Edge, c'est que dans Mirror's Edge, il y a effectivement un scénario. Et c'est vrai que c'est pas pour ça qu'on se souvient de Mirror's Edge, le premier
du. Pas du tout, non. Mais alors moi, je sais pas pour toi, mais enfin quand j'ai vu la vidéo. J'étais là, mais Osef. Et je sens que ça va me saouler, ça, en fait.
C'est possible, ouais.
Par contre, je tiens à insister sur une chose. Ça a l'air très fidèle au premier, en termes de gameplay. Enfin, c'est-à-dire qu'en tout cas, je vois des passages où le mec rate. Donc, s'il rate, ça veut dire qu'en tout cas, c'est pas automatisé.
Ouais.
Donc, si c'est pas automatisé, déjà, c'est une bonne nouvelle. Ouf, je respire. En plus, entre-temps, de ce côté-là, il y a eu Dying Light qui est sorti. Et pour le coup, ça fait vachement penser à Dying Light.
Oui.
Les zombies en moins. Mais Dying Light aussi, tu vois, t'avais un côté combat corps à corps qui est apparemment dans ce nouveau Mirror's Edge.
Ouais.
Sauf que dans Mirror's Edge, apparemment, va pas falloir s'éterniser. Enfin, j'espère, parce que si ils font du combat au cac, enfin, il y a intérêt que ce soit soit très bon, soit que ça soit très court. Alors, pour le moment, je suis assez partagé, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, je suis vachement rassuré. Parce que je vois que le gameplay, c'est pas de l'automatique. De l'autre, la narration, je sens qu'elle va vite me saouler parce que franchement, ça n'a pas l'air très intéressant, quoi.
Ouais, après, je pense que c'est aussi... tu sais, dans un triple A de nos jours, t'es un petit peu obligé d'en passer par là, en fait, maintenant. Et donc, du coup... alors moi, ça me dérange pas spécialement. Je pense que de temps en temps, dans un Mirror's Edge, j'ai besoin de souffler. Et du coup, la narration, alors si elle est bien dosée, hein, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus que ça dure des heures... si elle est bien dosée, ça m'apportera des respirations qui seront peut-être nécessaires de temps en temps. Surtout que, rappelons-le, c'est un jeu donc qui est en open world. Et au bout d'un moment, en fait, les open world, t'as quand même besoin de te poser de temps en temps. Et en tout cas, pour ma part. Et donc, du coup, moi, ça me dérange pas spécialement. En tout cas, de ce que je vois en termes de gameplay, ça me plaît beaucoup. Donc, à voir. Rappelons que le jeu sort le 7 juin. Et non plus en mai, quand c'était annoncé.
Alors, open world, par contre, je sais pas si t'as remarqué, mais au début, il y a des flèches.
Bah, didacticiel, c'est normal.
Ouais, mais est-ce que c'est vraiment le didacticiel, ou est-ce qu'ils te mettront des chemins dans l'open world guidés? Enfin, c'est la question que je me pose. J'espère que c'est le didacticiel, voilà. Et aussi, moi, il y a un truc que j'aime pas du tout, mais je crois pas que c'est dans la vidéo, parce que j'ai pas regardé les 20 minutes en entier, je vous avoue. J'ai regardé les 10 premières minutes, c'était déjà beaucoup trop. Dans ce Mirror's Edge, il y aura un aspect RPG. Entre guillemets.
D'accord.
C'est-à-dire que tu débloqueras des compétences, et moi, il y a un truc qui m'a pas seulement brisé les burnes, dirons-nous, c'est que j'ai appris récemment, j'en parlais la semaine dernière, que dans Mirror's Edge 2, eh bien, si tu veux faire un demi-tour, il va falloir débloquer la compétence. Ce qui te fait lever les yeux au ciel, enfin, je sais que la mode, c'est de mettre du RPG partout, parce que le RPG, tu sais, comme t'as des trucs à débloquer, du coup, tu t'attaches à ton personnage, et tu as moins tendance à quitter le jeu, en fait. C'est pour ça qu'ils mettent du RPG dans les FPS, par exemple, tu vois. C'est que comme t'as pris du temps pour monter ton personnage, ça te fait chier de quitter le jeu, en fait. Parce que t'as investi du temps dedans. Alors que si tu mets pas d'aspect RPG dans ce type de jeu, bah finalement tu peux vite passer à autre chose quoi.
Oui, tu le laisses tomber quand tu veux. Bah regarde Battlefront.
Voilà.
Il y avait pas d'élément RPG hein. Bah voilà. On sait tous ce que ça a donné.
Le gros point d'interrogation que j'ai pour ma part, c'est quid de l'aspect multi.
Oui.
Parce que franchement, ce qui pourrait être cool, tu vois, ce serait des trucs en parcours où c'est toi qui dois planifier ta route en fait. Tu dois aller d'un point A à un point B, c'est une course. Et en fait, c'est celui qui planifie la meilleure route qui arrive en premier qui gagne quoi.
Ouais, why not.
Ou même des courses scriptées, tu vois, où t'as un chemin précis que tu dois faire. Franchement, c'est un jeu, je pense, en multi, il y a moyen de faire des choses, quoi.
Oui, je pense. En tout cas, le jeu, quand tu le vois comme ça en 1080p, il est très très beau. Hein. Surtout, bah, notamment, quand tu regardes Faith dans les cinématiques, c'est assez magnifique.
Le seul truc que je trouve un tout petit peu en deçà du premier, tu sais, c'est que je trouve le premier était très propre.
Oui.
Quand il s'agissait de t'indiquer où il fallait aller, sans pour autant te mettre d'énormes flèches, tu vois, pour t'indiquer le chemin, en fait. C'est-à-dire que...
Les trucs en rouge,
oui,
c'était quand même assez évident.
Oui, c'était assez évident, mais tu vois, là, c'est beaucoup plus grossier, en ce sens que maintenant, les trucs en rouge, c'est même plus suffisant. Il faut carrément qu'on mette un espèce de liseré, tu vois, qui t'indique le chemin à suivre. Enfin...
Mais ça j'espère que c'est le didacticiel qui veut ça, hein, et qu'après, on n'en aura plus des trucs comme ça, parce que sinon, ça va être un peu pénible.
C'est sûr.
Ou alors, si c'est désactivable, ça, je m'en fous. Mais si c'est pas désactivable, ça va être très, très chiant.
Voilà. Et puis, bon, encore une fois, j'ai beaucoup d'interrogations sur le level design. Est-ce que ça va pas rendre l'expérience plus fat que ça soit en open world, tu vois? Parce que, on va pas se le cacher, Mirror's Edge, en vrai, c'est un jeu de plateforme. Hein.
Oui. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu, d'ailleurs.
Ouais. Et le fait de mettre ça en open world, en termes de level design, c'est très très compliqué à faire, en tout cas. Et s'ils y arrivent, chapeau bas, parce que c'est vraiment... voilà. Mais j'ai des gros doutes, quand même. J'attends de voir. Mais en tout cas, c'est clair que je vais l'acheter. Ça. Sauf si vraiment les gens disent que c'est une catastrophe interstellaire. Évidemment, voilà, quoi. Mais je suis très curieux, quoi.
Ouais.
Bon. Morhen.
Yes.
C'est toi qui vas prendre la parole, maintenant. Et tu vas nous parler de Fallout 4.
Oui, une fois n'est pas coutume, parce que pour le coup, Fallout 4, vous m'avez jamais entendu parler de ce jeu avant.
Quoi, tu ne fais pas partie des gens qui attendaient avec impatience Fallout
Ben je peux pas attendre Fallout 4 alors que j'ai jamais joué à Fallout 3, à Fallout New Vegas et au précédent, tu vois.
Ouais, tu vois, il y a plein de gens qui attendaient Fallout 3 alors qu'ils avaient jamais joué au précédent jeu de la série, donc bon.
Ben voilà.
Ben, je sais pas, j'avais l'impression que c'était une licence qui était devenue hype par le miracle du Saint-Esprit, donc je me disais que peut-être toi aussi tu faisais partie.
Eh bien non. Mais ouais, pourquoi je parle de Fallout 4 aujourd'hui, c'est surtout parce que Bethesda vient de sortir le Creation Kit, donc qui est un moyen pour tous les joueurs qui ont
un PC
et des envies créatives, de proposer des mods de la manière la plus simple possible, en tout cas c'est ce qu'on nous fait croire dans la vidéo.
Bon, c'est pas simple du tout, hein, parce que en gros le Creation Kit, c'est les outils des développeurs.
C'est ça. En tout cas, ce que propose le Creation Kit, au-delà du côté création, c'est surtout la diffusion de ton mod. Pour les gens qui touchent un petit peu ce genre d'outils de développement, c'est le moyen, en fait, de proposer aux joueurs à la fois PC, Xbox One et PS4 de télécharger leur mod. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est le fait que les mods ne soient plus dirigé seulement à la communauté PC, mais également aux consoles peasant, j'allais dire. Mais par contre, il va falloir bien rouler sa bosse, parce que voilà, l'éditeur, c'est exactement ce qu'utilisent les développeurs de Fallout 4 pour créer le jeu. Donc c'est quelque chose de méga complet.
Évidemment, minus quelques fonctionnalités qui permettraient de toucher à des fichiers du jeu auxquels il faut pas toucher. Hein, voilà.
Voilà. Mais du coup, c'est quelque chose qui... Moi, je trouve ça hyper cool, en tout cas, parce que ça a tendance à un petit peu abaisser les barrières qu'il y a entre le PC et les consoles. Bon, il y aura forcément des mods, à mon avis, qui seront impossibles à faire tourner sur PS4 et Xbox One. Je pense probablement aux mods qui sortiront dans quelques années, qui seront des overhauls monstrueux de ce qu'il y a dans Fallout 4, et que tu pourras pas, de toute façon, faire tourner sur console, mais uniquement sur PC.
Typiquement Skywind, je vois le remake de Morrowind, dans Skyrim avec des graphismes,
Donc ça, voilà, vous faites pas d'illusions non plus, logiquement, enfin même si ça arrive sur PS4, je vous souhaite bon courage. Mais en dehors de ça, je trouve ça plutôt cool que y ait plus vraiment cet argument du « ouais mais j'ai un PC du coup supérieure version parce que mod », mais plus vraiment, et ça c'est plutôt pas une mauvaise idée, alors après à voir ce que ça va donner.
À mon avis, il y aura quand même du tri, hein, parce que autant sur PC tu peux faire ça open bar parce que les gens peuvent corriger les problèmes s'il y a des soucis, alors que sur console, voilà. Alors, par contre, on pourrait arguer une chose, c'est que quand même, Bethesda, est-ce que finalement, ils ont pas mis en place tous les outils pour permettre aux gens de finir leur jeu, quoi? Enfin, c'est toujours le même débat avec Bethesda, tu vois.
Bien sûr. Le serpent de mer de Bethesda.
Ont tendance à sortir pas trop terminé.
Ouais, pour être gentil. Ouais.
Ça s'est un peu lissé avec les années, hein. Skyrim, notamment, n'est pas du tout la catastrophe qu'a pu être Oblivion à sa sortie.
Oui.
Globalement, j'ai pas eu trop de soucis avec, moi, Skyrim, quand j'y ai joué en vanilla. Après, voilà. Ça me pose toujours un problème, si tu veux, quand un éditeur laisse les fans sortir les patchs pour ses jeux, quoi, en fait. on passe le cacher. La principale utilité de ce genre d'outil, c'est déjà corriger tous les bugs que Bethesda n'a pas pris la peine de corriger.
Bah, je pense que le premier mod que tout le monde a téléchargé pour Oblivion, ça devait être le patch correctif non officiel, quoi.
Ah non, mais tous les gens qui téléchargent des mods sur les jeux Bethesda, la première chose, même à l'époque de Morrowind, surtout que Morrowind, il y avait des putains de bugs, ça passe, quoi. Genre, tu sais, des bugs qui t'empêchent de finir le jeu, ce genre de choses. Mmh. Ouais, parce que je me rappelle notamment, dans Morrowind, il y avait un objet que tu devais récupérer dans une cave, en fait. Et en gros, ils avaient l'idée de génie, tu vois, de faire se popper cet objet sur un fantôme random, je crois. Mm. Et tu pouvais, je crois qu'il pouvait disparaître, un truc comme ça. Enfin bref, c'était la merde. Et ça avait été corrigé après, justement. Enfin voilà. Donc voilà, c'est toujours le problème des jeux Bethesda. C'est cool. Franchement, la politique en elle-même, j'approuve. C'est-à-dire que c'est toujours plus intelligent que ce que 99% des éditeurs font.
Bien
à
sûr.
Savoir, les mods, allez vous faire foutre. Cette politique-là, elle me sort par les yeux parce que je pense qu'elle est idiote, en fait. C'est-à-dire que elle empêche de prolonger la vie du jeu, et ce, gratuitement, alors que t'as quand même des mecs, quoi, qui se proposent vraiment de prendre en main ton jeu et de faire des trucs avec. Par exemple, on en parlait il y a pas si longtemps avec Ben, il y a un truc que moi j'ai trouvé extraordinaire, c'est un mec, tu sais, avec les outils de modding de StarCraft 2, qui a fait un remake de Diablo 2, tu vois. Enfin, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Enfin, y a que sur PC que, jusqu'à maintenant, que tu pouvais voir ça. Et le fait, justement, que Bethesda, il propose ça en plus sur console, je me dis bravo. Par contre, effectivement, encore une fois, Bethesda, c'est pas une raison pour ne pas finir de patcher votre jeu. Voilà. Ouais. Bon, quelque chose à ajouter, mon cher Warren, ou...
Non, on a fait le tour.
Nous finissons sur... sur le point problématique de la semaine, durant le coup. Le doigt d'honneur de la semaine. Le doigt d'honneur de la semaine, c'est Nintendo qui nous l'a fait, n'est-ce pas? C'est au détour d'un bilan financier qu'on a appris une nouvelle, ma foi, qui... est assez surprenante, ou pas vraiment, mais enfin disons que elle est surprenante dans la manière où ça a été fait, quoi. C'est-à-dire que putain, les mecs, la com, c'est pas votre fort, hein.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ça, c'est le problème du fait que on est rendu public, si tu veux, des choses qui sont dirigées à des actionnaires et pas à des joueurs. C'est-à-dire que forcément, quand on s'adresse à des actionnaires, on parle de choses qui sont beaucoup plus prosaïques que ceux dont les joueurs s'attendent, en fait.
D'un côté, j'ai envie de dire, à notre époque, tu sais très bien que quand tu vas te donner des informations, au bout d'un moment, ça va sortir.
Oui.
Et ça aurait dû être fait autrement, quoi. Enfin...
Oui, oui. Mais donc là, c'est véritablement la double baffe. C'est-à-dire que Nintendo montre que la Wii U s'est terminée et que jusqu'à fin 2016 et même jusqu'à début 2017, il y aura rien. À part, du coup, ce Zelda Wii U qui sortira donc début 2017, en même temps que sa version NX. et qu'en plus de ça, à l'E3, Nintendo ne sera présent qu'avec Zelda Wii U / NX. Du coup, Zelda Wii U, puisqu'ils vont pas montrer la NX à l'E3.
Alors que nous, on était persuadés, enfin moi en tout cas, je croyais dur comme fer que ça y est, la NX, c'était cette année qu'on allait la voir, quoi.
Moi, j'étais même persuadé que la NX, elle allait sortir fin d'année 2016. Donc, c'est vrai que là, t'as un espèce de soufflet de mini-hype qui retombe, mais de façon assez cataclysmique, quoi. C'est-à-dire que là, pendant une année fiscale entière, quasiment, tu vas avoir Nintendo qui est en position fœtale dans un coin, en train de dire « Achetez des trucs, achetez des amiibo, faites des microtransactions sur nos jeux mobiles, et puis c'est tout. »
En fait, c'est pour ça qu'ils vendent du jeu mobile, c'est...
Bien sûr.
Bon, on fait de la thune sur mobile, on peut
mais
prendre
oui.
le temps, ça y est.
Mais je comprends mieux la stratégie mobile, au final, qui se révèle en 2016. C'est que, bah, ils sont obligés de développer des trucs à moindre coût, entre guillemets, et des trucs qui rentabilisent. Parce que ils ont rien d'autre, quoi. Et ça, c'est assez flippant. Parce que du coup, alors je sais pas si c'était dans la foulée, mais on a appris que il y aurait du coup un Fire Emblem mobile et je sais plus quelle autre licence qui arriverait sur mobile d'ici la fin d'année. On a Pokémon Go qui arrive évidemment, qui logiquement devrait être un carton si jamais ils réussissent à le faire tourner correctement sur un mobile. Parce,
ouais, parce
que
qu'on a vu des vidéos, c'est pas GG. Hein.
On a vu des vidéos qui sont pas GG. Après, on sait pas sur quel appareil ça a été filmé, mais... C'est vrai que j'ai rarement vu un truc qui ramouille à ce point-là.
Bah surtout que c'est dégueulasse en plus, que ça rame, tu vois.
Mais t'inquiète pas que ça, c'est pour la... c'est... Il y aura un paywall assez monstrueux pour acheter des Pokéballs ou je ne sais quoi. Enfin, paywall ou matraquage de publicité pour ne serait-ce que jouer un petit peu à ce jeu. Mais ça, c'est évident que maintenant, le mobile, c'est... le moyen pour Nintendo de rentabiliser une année fiscale qui va être assez morose, visiblement.
Non, et puis surtout le report de Zelda, quoi.
Rappelons que c'était pour fin 2015, avant.
Le doigt d'honneur ultime, c'est vraiment le côté... Alors, on t'a fait miroiter un Zelda pour cette année, pour que les gens continuent d'acheter des consoles.
Oui.
Et en fait, ces gens-là, on leur dit d'aller se faire foutre.
Exactement.
Enfin, c'est clairement ça. Ils nous refont le coup de la GameCube.
Mais, tout à fait.
Alors, moi, si vous voulez, j'ai un historique avec Nintendo. Hein. C'est à l'époque de la GameCube que j'ai divorcé avec Nintendo, personnellement.
Ouais.
Parce que le toucher rectal sur la GameCube, il est pas passé, tu vois. Mais, ouais. mais vraiment pas. Le côté, alors, ok, la GameCube, c'est fini. Le Zelda, il doit sortir en simultané sur Wii, report, tout. C'est exactement le coup de la GameCube.
Exactement.
C'est exactement la même chose.
Mais on s'y attendait. Hein.
Et en plus, mais moi, ce que je trouve scandaleux, c'est que vraiment... les joueurs de Wii U doivent patienter pour que les joueurs de NX puissent avoir leur version à eux, tu vois. Mais vous vous foutez notre gueule, en fait. Vous croyez que votre catalogue, là, il est si extraordinaire que vous pouvez vous permettre de sortir... Enfin, il y a sûrement 2-3 jeux qui vont sortir. Enfin, là, tu vois, j'en suis à un stade où je suis même pas sûr qu'il y a des jeux qui vont sortir, quoi, tu vois, cette année, à part Star Fox. J'ai pas de nom comme ça qui vient en tête, et ça, ça me fait flipper déjà. Et en plus, la licence la plus attendue cette année, vous ne la sortez pas à Noël. Vous foutez de la gueule de qui, quoi?
Eh oui, c'est Nintendo qui fait le doublé. Alors, juste pour étayer un petit peu ça, je suis allé rechercher un tableau diffusé sur Twitter par Oscar Le Maire sur les chiffres d'affaires de Nintendo sur l'année fiscale 2015-2016, et on se rend compte que le hardware salon, c'est quand même 22% de son chiffre d'affaires, le hardware portable, c'est 20%, les jeux salon, c'est 21%, les jeux portables, c'est 18%, et les accessoires plus les amiibo, c'est 10%, les DLC, c'est 5%, et les mobiles plus les licences, c'est que 1%.
Bon,
donc
en
on se rend
temps,
compte,
il démarre. Hein.
Ben justement. Non mais parce que là c'est année fiscale 2015-2016, donc ça s'est terminé en mars dernier. Donc ça veut dire que c'est donc une période où Nintendo avait quasiment rien fait sur le mobile. Donc là clairement, on se rend compte que le levier de croissance pour Nintendo sur l'année fiscale 2016-2017, c'est le mobile et la licence. C'est-à-dire que c'est ça qui doit remplacer la chute qui va être, à mon avis, catastrophique de la Wii U et de ses ventes de jeux en ayant une extension forcément du chiffre d'affaires du mobile et des licences. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de cravacher de façon assez folle sur le mobile et les licences, à mon avis. C'est qu'ils peuvent pas se permettre de faire autrement parce qu'ils ont rien de prévu, que ce soit sur 3DS, comme sur Wii U d'ailleurs, hein, d'ici la fin d'année. Ça, c'est très flippant quand même. Ah, il y a quand même Pokémon Sun and Moon qui devrait sauver un petit peu les ventes de jeux. Pour la 3DS. Mais pour la Wii U,
Paper Mario, puis ça en va.
Voilà, voilà.
Voilà, merci d'avoir acheté une Wii U, c'était très sympathique de votre part. D'ailleurs, si, vous pourrez reprendre un Amiibo, hein, s'il vous plaît.
Ça, vous reprendrez bien un Amiibo.
Ouais,
hein.
Voilà.
Allez, pour la route.
Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, mon Juan? Enfin, là, le 3, cette année de Nintendo, il va être chiant. Alors certes, le Zelda, bon, au moins, on aura une conférence Zelda qui sera intéressante.
Parce que... Ah oui.
Là, pour le coup, parce qu'ils ont clairement annoncé que la le 3, ce serait Zelda. Mm-hmm. Alors, ok. Alors déjà, il va falloir se poser une question quand on va être à le 3, c'est le Zelda qu'on nous montre là. C'est le Zelda NX ou c'est le Zelda Wii U? Premier point.
Mm-hmm.
Second point, ça pose plein de questions sur la NX maintenant. Parce que le fait que t'aies un jeu qui sorte en double sur les deux plateformes, est-ce que ça veut dire qu'on va encore une fois se retrouver avec un hardware à la ramasse qui sera une évolution à peine améliorée du précédent? Putain, et mais oui. Ça fait 4 générations que vous faites le coup, là. À un moment donné, il faudrait peut-être évoluer, quoi.
Stop! Make it stop!
Attends, je veux dire, c'est pas un hasard si... les créateurs d'émulateurs, tu sais, ouais. Ils ont quasiment repris les mêmes bases, tu sais, Dolphin, pour faire l'émulation de la Wii. c'est quasiment la même console, quoi. Ouais. Et l'émulation, ça a été fait en 2-3 mouvements. Et là, enfin, s'ils nous refont le coup, votre concept, il a intérêt à être génial, les mecs, hein, parce que le gameplay asymétrique, ça a pas marché, hein, jusqu'à maintenant. La preuve avec Star Fox, j'ai envie de dire.
Ouais, après à voir hein. On n'en sait rien sur la NX et moi ce que je trouve étonnant c'est que là pour le coup on nous a annoncé que la NX elle sortirait donc d'ici la fin de l'année fiscale en cours, donc probablement d'ici mars 2017. Mais alors c'est quand le moment propice pour Nintendo pour commencer à parler de cette console en fait? Parce que pour moi c'était logique que à l'E3 on nous parlerait de la NX. Donc ça veut dire que d'ici la fin d'année, on a une espèce de grande conférence, un grand barnum organisé par Nintendo seul pour nous présenter la NX. Ça veut dire qu'il va falloir quand même qu'ils sortent les doigts pour la communication, parce que bon, les Nintendo Direct c'est gentil, mais les Nintendo Direct ils sont pas forcément suivis par des millions de personnes. Il va falloir communiquer là-dessus. Et c'est dommage qu'ils profitent pas de l'E3 pour ça. Parce que, pour moi, l'E3 2016 aurait pu être le moment du grand retour de Nintendo à l'E3, parce que c'est vraiment l'endroit où tu dévoiles une console. Je m'imagine pas un constructeur proposer de la communication marketing sur une nouvelle console en dehors de l'E3. Et je trouve ça très étonnant comme choix, en fait.
Non, mais pour moi, c'est symptomatique du fait que Nintendo ne se sente pas en concurrence avec qui que ce soit, en fait.
Ouais.
C'est-à-dire que pour eux, Sony, Microsoft, c'est pas des concurrents, donc on fait nos Nintendo Direct à nous, ça a toujours très bien marché.
Ouais, pas pour vendre des consoles. Les Nintendo Direct, ils ont jamais été utilisés pour vendre une console.
Bah, il faut que les gens soient sur place, qu'ils essaient le truc.
Bah, c'est ça.
Ça crée l'événement, quoi, quand même, le 3. Enfin, je sais pas, enfin... Regardez Sony l'année dernière, quoi.
Mais oui. Le 3, ça crée tellement l'événement que les généralistes sont là. Et je suis pas sûr que les généralistes soient là pour une conférence ailleurs. Alors, ça se vérifie, hein. Je sais pas si la conférence de Sonic avait été donnée, je sais plus où, à New York ou je sais pas quoi. Je sais plus s'il y avait eu des généralistes à cet endroit-là.
Non, mais la conférence Sony à New York, il y avait rien. Enfin, je veux dire, il y avait 2-3 trucs, mais là où Sony a marqué le coup, et Dieu sait qu'ils ont marqué le coup avec pas grand-chose, j'exagère, il y a quand même des trucs qui étaient super cool.
Ouais.
Mais tu vois, quand même, c'est pour montrer l'impact que peut avoir un E3. Sony, l'année dernière, a tué tout le monde avec, quand même, au final, quand tu regardes de plus près, pas tant de choses que ça, quoi. Ils ont juste fait un bon E3, quoi.
Ils ont plus besoin. En fait, ils se contentent de faire un truc bon, un truc qui est suffisant, mais c'est pas un truc qui est monstrueux, quoi. Et parce qu'au final, en face, il y a rien.
Microsoft...
Nintendo est plus là, Microsoft, c'est terminé. D'ailleurs... RIP Lionhead qui a fermé ses portes en fin de semaine, mais sinon enfin c'est vrai que la PlayStation domine faute de concurrence en fait.
C'est ça. Nintendo n'existe pas, Microsoft n'existe pas.
Moi, ça m'inquiète, grand temps.
Ça m'inquiète pour parce que Sony qui se repose sur ses lauriers, on a déjà vu ce que ça donnait par le passé.
C'est vrai.
Bah, je veux dire, la PlayStation 3, c'est une illustration de l'arrogance de Sony qui se croyait plus beau que les autres et qui s'est fait pider parce que ils se sentaient plus pissés, quoi. Ils avaient tellement dominé tout le monde avec le PS2 que ils sont commencé à se dire oui, on va imposer ça, ça, ça à tout le monde, tu vois.
Ouais.
Et moi, je vous dis, si Sony est tout seul, la prochaine gen, le démat, 100%, vous allez bouffer, hein.
Mais il est grand temps que Nintendo sorte enfin de l'ombre, quoi. Mm. Parce que la Wii U, elle existe plus depuis bien, bien trop longtemps. Et Nintendo avec, du coup. Parce que la 3DS, c'est très bien, c'est un gros succès, mais la 3DS, c'est quand même une console qui est hyper vieillissante. Avec un catalogue de jeux qui se renouvelle pas ou trop peu.
Et encore, un gros succès, oui, c'est un bon succès, mais c'est pas le succès de la DS. Hein.
Bien sûr.
Bon, qui est, en l'occurrence, totalement stratosphérique, hein, comme console, mais... franchement, en termes de renouvellement, moi, je suis inquiet, quoi.
Ouais.
Voilà. Bon, Morane, je te propose qu'on ferme le rideau.
Ouais.
On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Encore une fois, je le rappelle, nous recrutons. Tyran premier at msn.com, tyran@msn.com. Ah, je rappelle que vous pouvez retrouver Mandrane sur sa chaîne YouTube, n'est-ce pas? Le nom de ta chaîne Mandrane, c'est quoi déjà?
C'est Mordrane.
Voilà,
Mordrane. youtube.com/Mordrane.
On te retrouve aussi sur Twitch, voilà.
Oui.
Mandrane Live, tout ça. Tu fais des lives, notamment récemment, c'était de Banner Saga 2, je crois, des trucs comme ça.
Banner Saga 1.
Voilà. Ah oui, c'est vrai, il faut faire le 1 avant de faire le 2, déjà.
Oui.
voilà, donc rendez-vous... Je disais une connerie, excuse-moi, pas rendez-vous la semaine prochaine, parce qu'il se trouve que la semaine prochaine, il y a un pont, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'ai déposé un jour pour avoir un pont, je vais voir la famille, tout ça, donc si le monteur n'est pas là, n'est-ce pas, pour faire l'émission, il n'y a pas d'émission, donc il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, profitez-en pour faire vos jeux, tout ça, moi, j'en profitais... Ça va me laisser un peu de temps pour finir Dark Souls 3, tout ça. Et promis, prochain numéro, il y a un test de Dark Souls 3. En espérant que Tadash aura là, cette fois. Allez, rendez-vous dans 2 semaines. Bye bye à tous.
Salut tout le monde.